Oui, pour Engie, vert, ça peut rimer avec moins cher. N'est-ce pas, Claire? Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir conditions de l'offre et du comparatif de prix sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Détaillera sa feuille de route et reviendra sur les racines de son engagement.
Sens politique, ce samedi à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture vous propose de redécouvrir cette émission.
La science, CQFD, Natacha Triou.
Aujourd'hui, nous avons la joie de nous entretenir une heure avec une historienne des sciences de renommée internationale et la lauréate du prix Balzan 2024, Lauren Daston, est notre invitée. Directrice et cofondatrice de l'Institut Max Planck d'Histoire des Sciences de Berlin depuis plus de 30 ans, elle rédige une histoire intellectuelle des sciences. Lauren Daston enquête et historicise des notions clés en philosophie, celles d'ordre de la nature ou de normativité de la science. Elle retrace également l'histoire d'un concept, celui de l'objectivité, et montre que ce détachement émotionnel attendu chez les chercheurs qui inclut l'occultation du soi est quelque chose de relativement nouveau. Alors que signifie voir le monde avec un regard scientifique ? Lauren Daston, en toute objectivité. Et Lauren Daston, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne des sciences, directrice émérite de l'Institut Max Planck d'Histoire des Sciences à Berlin. Vous enseignez toujours à l'Université de Chicago aux USA. Et vous serez reçue demain pour la 43e conférence Marc Bloch à la Cité des Sciences à Paris. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et bonjour Marguerite Capelle.
Bonjour.
Vous serez notre voix française aujourd'hui. Et merci à vous qui nous écoutez. Merci à vous qui nous suivez également sur Blue Sky. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à rejoindre cette plateforme. Comme tous les jours, vous pouvez retrouver nos sources et nos ressources sur notre compte @sciencesqfd. Alors, comment le rapport entre objectivité et subjectivité s'est-il modifié au fil des siècles? Comment avez-vous retracé l'histoire de ces notions? Et comment vos travaux nous permettent-ils de comprendre les communautés scientifiques sur la longue durée? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour et la voix d'un autre historien des sciences, Gaston Bachelard, en 1968.
L'histoire des sciences est d'abord essentiellement une histoire des génies. Une histoire de la pensée géniale, essentiellement géniale, si l'on veut la caractériser par son caractère, son trait dominant, il faut la présenter comme une lutte du génie contre la pensée régnante. Le génie n'est jamais un esprit tranquille. Il doit lutter contre des idées et, par conséquent, la pensée scientifique prise dans son histoire a une allure essentiellement polémique. Si on revit les progrès de la science, on se convainc que la pensée scientifique est en état de révolution permanente. Un véritable savant est toujours prêt à réformer radicalement sa pensée, à reconstruire la science sur une nouvelle base. Et le savant n'a besoin que de la réflexion et que de l'expérience pour déterminer ses évolutions de pensée. Le progrès scientifique profond est une révolution autonome.
Voilà un extrait de l'émission des grandes conférences diffusées sur la RTF en 1948 et non pas en 1968. Lauren Daston, Gaston Bachelard qui dit le progrès scientifique profond est une révolution autonome. Comment ça vous fait réagir, ça?
First of all, it's an enormous pleasure.
Mais d'abord, c'est un grand plaisir d'entendre la voix de Gaston Bachelard. Toutes ces décennies après, c'est un grand historien et philosophe des sciences. Mais son point de vue sur l'histoire des sciences, comme une espèce de panthéon des génies qui étaient toujours prêts à réformer leurs idées de façon façon radicale, les revisiter. C'est ça, c'est seulement aujourd'hui une partie de l'histoire des sciences. L'histoire des sciences s'est développée et couvre un domaine beaucoup plus vaste depuis les travaux pionniers de Gaston Bachelard. Aujourd'hui, c'est une histoire non seulement de grands hommes, mais aussi de grandes femmes, déjà. Et puis, c'est une histoire aussi de collectif. S'il y a une chose qui distingue la science contemporaine, la science moderne comme façon de connaître, d'apprendre, c'est que ce n'est plus une quête solitaire, c'est un effort collectif. Et c'est sans doute l'innovation majeure dans l'histoire des sciences depuis l'époque de Gaston Bachelard.
Vous, on peut dire, Lauren Daston, que vous êtes une historienne des sciences, mais qui est résolument inscrite dans une démarche pluridisciplinaire.
C'est peut-être vrai de tous les historiens des sciences. Les gens ne se réveillent pas un matin à l'âge de 7 ans pour décider qu'ils vont devenir historiens des sciences. En général, les gens trouvent le chemin vers l'histoire des sciences en passant par d'autres disciplines, et parfois par plusieurs autres disciplines. Ils ont une formation scientifique, ils ont aussi une formation philosophique, ils ont aussi une formation en sociologie, en anthropologie, et bien sûr en histoire. Donc je ne suis pas quelqu'un qui sort de l'ordinaire dans le fait que j'ai eu une trajectoire, on va dire, qui n'était pas linéaire, à travers différentes disciplines pour devenir historienne des sciences. L'histoire des sciences accueille des gens qui n'ont jamais réussi à se décider sur une discipline préférée.
C'est votre cas, justement, le fait de ne pas avoir su choisir une discipline en particulier.
J'ai commencé par étudier l'astronomie. Et j'ai eu énormément de chance, la bonne fortune de, par hasard, avoir comme enseignant pour le cours d'introduction à l'astronomie à l'université un historien des sciences. Il était historien dans son domaine. Donc, par hasard, j'ai tout de suite découvert l'histoire des sciences. J'ai continué ensuite en mathématiques, en philosophie. Mais j'ai toujours été attiré par les questions philosophiques qu'on pouvait poser dans une veine historique, c'est-à-dire rendre concrètes des questions extrêmement abstraites. L'histoire des sciences est la discipline parfaite pour faire de la philosophie de façon concrète, au travers de situations précises et particulières.
Vous avez en effet été diplômé de Cambridge en 1974, vous avez obtenu un doctorat en histoire des sciences à Harvard en 1979. Depuis, on peut dire que vos travaux sont motivés par ce dialogue permanent entre les sciences sociales, l'histoire culturelle, autour de cette notion de la pratique scientifique.
Oui, et bien sûr, il n'y a pas que moi qui fais l'histoire des sciences de cette façon. Ça a été une sorte de révolution dans les années 90. Si l'on remonte il y a 30 ans en histoire des sciences, il y avait une guerre ouverte entre ceux qui avaient une approche réaliste des sciences et ceux qui étaient plutôt le constructivisme social. Pour expliquer très brièvement, le réalisme, c'était le point de vue qui disait que les théories scientifiques étaient un miroir du fonctionnement réel du monde, de la réalité du monde. Le point de vue constructiviste voyait la science comme la création, comme une œuvre de création, et la création aussi d'une époque particulière et d'un groupe particulier, d'un contexte particulier. L'histoire de la pratique scientifique a permis de créer un pont entre ces deux camps et de les réconcilier. Je vais vous donner un exemple concret. Prenons par exemple l'histoire de l'expérimentation scientifique. Personne ne doute que cette histoire est centrale pour toutes les sciences modernes. Mais l'histoire culturelle de la science fait remonter les origines de l'expérimentation scientifique non dans les laboratoires, mais dans les cuisines, ou l'alchimie, ou la boutique de l'apothicaire, ou encore l'atelier de l'artisan. C'est là qu'on voit qu'une pratique culturelle qui consiste à tester, à essayer les choses, a pu prendre un nouveau sens épistémologique en devenant une expérience contrôlée, qui est devenue vraiment une pratique fondamentale de la science contemporaine.
Ce que vous décrivez là, par exemple, avec la cuisine, on y reviendra, c'est aussi cette question de règles que vous interrogez dans vos travaux. Mais ce que vous interrogez dans vos travaux avant tout, c'est ce fameux, cette fameuse thèse du splendide isolement des disciplines scientifiques. C'est-à-dire que la classification des sciences et surtout l'idée de la permanence de cette classification actuelle, c'est quelque chose que vous questionnez, Lauren Daston.
It is of course only natural.
Bien sûr, c'est tout naturel quand on est historienne des sciences. Nous avons nous-mêmes été formés aux sciences contemporaines et donc il est tout naturel que nous acceptions cette classification actuelle des sciences comme la seule possible. Par exemple, les grands continents du savoir tels qu'ils sont présentés à l'université, les sciences naturelles, les sciences sociales et ce qu'on appelle les humanités, qui portent différents noms. Mais quand on regarde à long terme le développement de l'histoire des sciences, on voit que des disciplines ont pu être voisines à d'autres époques. Par exemple, l'astronomie et la théorie musicale sont aujourd'hui très éloignées dans cette représentation catégorielle, alors que c'était des disciplines qui fonctionnaient main dans la main. La physique et la philosophie, de la même manière, ont été séparées, distinguées. Nous sommes aussi à une époque où il y a un grand bouleversement, un grand mouvement, justement, des continents du savoir. Les disciplines sont de nouveau en train de changer de position par rapport les unes aux autres. L'histoire des sciences est une manière de réfléchir à cette fluidité des frontières, des limites entre les disciplines et aussi aux proximités et aux distances qui peuvent changer. C'est une façon de comprendre qu'ils sont en permanence en mutation, lentement, mais néanmoins une mutation.
Bah justement, quels sont les transformations en cours à ce propos, Lauren Daston? Les transformations en cours sur ces, entre les relations et les rapports de proximité ou de distance qui existent entre les disciplines scientifiques aujourd'hui en 2024.
Let's return to the question of scientific practices.
Revenons à la question de la pratique scientifique. Si on devait classifier les disciplines, non pas par le sujet qu'elles traitent, mais plutôt par les pratiques, on aurait sans doute une véritable révolution qu'on peut identifier aujourd'hui, qui est celle de l'utilisation du big data, des données. Ce sont des données qui sont utilisées par les historiens, en particulier les historiens, par exemple, de la période médiévale française, étaient déjà à l'avant-garde dans les années 60-70. Mais c'est aussi quelque chose que les chimistes peuvent utiliser, les biochimistes, les microbiologistes. Donc l'idée de l'extraction des données, c'est une pratique qui est commune à différentes disciplines, à différentes sciences, qui vraiment traverse justement les disciplines traditionnelles entre les humanités, les sciences sociales et les sciences naturelles. C'est quelque chose de tout à fait possible que différentes méthodes aujourd'hui utilisées, par exemple pour l'apprentissage automatique des machines, fassent de nouveau voler en éclats des frontières et rendent perméables en tout cas les frontières entre ces grandes disciplines. De la même manière que l'utilisation des mathématiques a rendu les limites qui séparaient la chimie, la physique et d'autres sciences dures comme l'astronomie plus malléables au XVIIIe et au XIXe siècle.
Vous évoquiez tout à l'heure le Moyen-Âge, lorsque l'astronomie était proche de la musique. Autrefois, on avait des savants un peu touche-à-tout. Depuis quand a-t-on commencé à avoir des savants spécialisés dans un domaine, une discipline, voire même une sous-discipline ou une sous-sous-discipline?
Disciplines are not a modern creation.
Les disciplines ne sont pas une création moderne. Mais c'est vrai qu'au 19e siècle, on a créé un fondement institutionnel pour chaque discipline, quelque chose qui a renforcé les divisions entre ces champs disciplinaires, en partie en raison effectivement de la spécialisation, comme vous l'avez dit. La spécialisation, c'est la précondition qui permet à toutes les disciplines, que l'on soit dans le champ des sciences, des sciences sociales ou des humanités, c'est la condition de l'approfondissement du savoir. Mais ça a créé les fondements institutionnels des disciplines actuelles. Et ce qui a renforcé ça, ça a été la formation universitaire de haut niveau, d'abord dans les universités allemandes et d'abord en humanité, en philologie classique et en histoire. Et très explicitement, on imitait en cela, ce sont les physiciens en fait et les chimistes qui ont ensuite imité cette façon de structurer l'institution et ça a finalement gagné l'ensemble du spectre des savoirs. C'est cette idée vraiment de la formation universitaire qui crée la spécialisation des disciplines contemporaines. Nous sommes héritiers de ces formations et de cette construction. Et quand nous parlons de la rigidité entre des barrières entre les disciplines, c'est cette formation rigoureuse, cette formation qui est vraiment la condition préalable justement au savoir concret et solide.
À présent, entrons un peu plus dans le détail de vos travaux. Il y a plusieurs notions sur lesquelles vous avez particulièrement travaillé, les notions d'ordre de la nature, d'objectivité ou encore de normativité de la science. Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons le grand honneur de nous entretenir une heure avec l'historienne des sciences américaines Lorraine Daston. Nous venons de parler du splendide isolement des disciplines scientifiques que vous remettez en cause en soulignant leurs liens, en montrant la rigidité entre les barrières, entre les disciplines. Il y a une allégorie que vous utilisez, Lorraine Daston, que j'aime beaucoup. Vous dites qu'il faut s'imaginer l'histoire des sciences comme régie par trois tempos.
So we think about science,
quand nous réfléchissons à la science, en particulier à l'évolution de la science, on pense à un tempo allegro ou prestissimo. Imaginez par exemple les couvertures qui chaque semaine dans les revues scientifiques importantes montrent les dernières découvertes empiriques, les dernières avancées scientifiques. C'est quelque chose qui va très vite, qui va même plus vite que la mode. Pendant la pandémie, en particulier dans le domaine de l'immunologie, ça s'est encore accéléré en virologie. C'était prestissimo, le tempo. Donc ça, c'est sans doute le tempo qui retient notre attention et c'est le cas aussi de la plupart des praticiens des sciences, d'ailleurs. Mais il existe un autre tempo beaucoup plus lent. Le tempo andante. C'est une évolution qui ne se passe pas sur des semaines ou sur des mois, mais plutôt sur des décennies, voire parfois sur des siècles. Ça, c'est la compréhension et l'analyse des découvertes empiriques qui approfondissent notre compréhension. Je vous parle par exemple de résoudre une énigme, mais de comprendre aussi toutes les pièces qui composent cette énigme. Parfois, on est face à un ensemble de pièces et on ne sait même pas si elles appartiennent au même puzzle. Le tempo andante, c'est celui qui consiste à trier justement toutes les pièces du puzzle pour savoir justement à quel tableau elles vont aboutir. Il y a un tempo encore plus lent, par ailleurs, le troisième tempo, le tempo largo, qui lui s'écoule sur des siècles et parfois même des millénaires. Et c'est le tempo de la pratique des sciences. Nous avons parlé il y a un instant de l'expérimentation sous contrainte contrôlée. C'est une innovation qui date du XVIIe siècle et qui fait toujours partie de la science. Mais il y a même des formes de savoir plus anciennes. Pensez aux observations cliniques, à l'observation clinique en médecine, qui est une pratique qui remonte à la Chine antique, à l'Inde antique, à la Grèce antique, à l'Égypte antique. La médecine clinique, l'observation clinique, c'est quelque chose que nous avons toujours. C'est toujours central. Sans l'observation clinique, on serait incapable de reconnaître la constellation de symptômes que nous qualifions maintenant de sida. Ça a commencé avec un médecin à San Francisco qui a reconnu une constellation de symptômes caractéristiques que certains de ses patients ressentaient. Aujourd'hui, les essais cliniques aléatoires qui ont été développés dans les années 70-80 par un médecin anglais et qui aujourd'hui complètent l'observation clinique, est venu donc à s'ajouter. Et encore aujourd'hui, une forme encore plus récente, c'est l'extraction de données qui s'est beaucoup développée notamment pendant la dernière pandémie pour essayer de comprendre la nature des maladies et la façon de les traiter. C'est vraiment un processus de connaissance qui est très long et qui est cumulatif. Le tempo largo, ces trois tempos, allegro, andante et largo, font partie du développement scientifique. Et en fonction du tempo qu'on observe, on a un point de vue très différent du progrès scientifique.
Justement, ces différents processus de connaissance, ce sont justement des concepts qui se réfèrent à ces processus-là qui vous intéressent, et c'est le cas notamment de la notion d'ordre de nature qui est au cœur de votre dernier essai, hein, Contre-Nature, traduit en 2024 en France aux éditions Marcus Allaire. Et dans cet essai, vous distinguez justement trois façons de penser la nature.
Yes, so these are all very old and still enduring forms of thinking about nature.
Ce sont des formes de vision de la nature qui sont très anciennes, qui remontent à loin. Quand on parle de nature, il y a un millefeuille de signification. Il y a beaucoup de sens différents. J'en ai choisi trois en particulier parce qu'ils existent depuis très longtemps et qu'ils sont très répandus. Le premier, qui est toujours très présent, c'est la nature spécifique. Si vous voulez, c'est la carte d'identité d'une chose en particulier qui fait d'elle ce qu'elle est. Par exemple, qu'est-ce qui fait d'un écureuil un écureuil plutôt qu'une truite ou un ours? Nous parlons de la nature spécifique quand on parle de la nature d'une espèce. Et quand on dit aussi que la nature d'une espèce est de produire du miel ou que la nature de l'eau est de s'écouler vers la mer. Ça, c'est une version très ancienne. Quand on parle de la nature humaine, on utilise aussi d'ailleurs cette approche de la nature. Une autre représentation de la nature qui est très ancienne et qui est également très répandue, c'est la nature locale, localisée. C'est l'idée de la combinaison de caractéristiques de la flore, de la faune, de la géologie, de la topographie, du climat, qui identifie un endroit particulier et permet de le qualifier de désert ou de côte méditerranéenne ou de forêt tropicale ou encore les Alpes. C'est la combinaison particulière de toutes ces caractéristiques qui font qu'un endroit va être accueillant, familier ou au contraire étranger. Ce sont vraiment les caractéristiques sur lesquelles on a fondé l'écologie moderne, mais aussi la médecine hippocratique. On traitait les maladies liées à un endroit particulier et une façon de vivre. La nature locale, c'est très très lié à la culture locale. La troisième façon de comprendre la nature, c'est les lois universelles de la nature, même si la métaphore de la loi c'est quelque chose de relativement récent qui apparaît au XVIe, au XVIIe siècle. L'idée de l'universalité des lois de la nature, en revanche, est très ancienne aussi. Aristote disait « les cultures varient, les lois varient, mais le feu brûle partout ». Il brûle en Perse, il brûle en Grèce de la même façon. Ces régularités de la nature sont identiques partout, au contraire de la nature locale qui est une sorte de mosaïque, de patchwork sur toute la surface de la Terre. Les lois universelles de la nature s'appliquent de la même façon ici ou dans une galaxie très lointaine.
Oui, par exemple, les lois naturelles universelles, ce serait par exemple les lois de la gravitation ou la science emblématique de ce troisième ordre de nature, c'est probablement la mécanique céleste.
Yes, you can imagine that if
oui,
each of these three ideas of nature
si ces trois idées de la nature correspondaient à une science spécifique, la nature spécifique, ce serait la taxonomie. La nature locale, ce serait l'écologie. Et les lois universelles de la nature, ce serait effectivement la mécanique céleste.
Alors, pour pouvoir aussi profiter de votre plume, je propose un extrait, une lecture justement de cet ouvrage et sur la définition qu'on vient de voir ensemble de nature spécifique. Le terme de nature spécifique recouvre la forme caractéristique des choses, qu'il s'agisse d'un châtaignier, d'un morceau de cuivre ou d'un renard. Leur propriété, le fait de fleurir, d'avoir des reflets rouges, d'être rusé, et leur tendance, le fait de pousser à partir d'une graine, de pouvoir être poli, de se reproduire en hiver. Les natures spécifiques déterminent la façon dont une chose, un animal, un végétal, un minéral, se comporte et ce à quoi elle ressemble. Il n'est possible de modifier l'apparence ou le comportement d'une chose que par la contrainte ou en faisant violence à sa nature spécifique. Il est dans la nature des flammes de se développer en hauteur, mais il est possible de les contenir au moyen de pare-feu. Il est dans la nature des fraises de mûrir au printemps, mais on peut les forcer à pousser sous serre en hiver. Dans le cas des organismes, les natures spécifiques prévoient une trajectoire de développement. Il est naturel pour un pin de pousser verticalement, pour un baobab de se développer en largeur, pour un têtard de se changer en grenouille à l'âge adulte, pour un mûrier de donner des fruits en été, pour un chiot de devenir un chien ou pour un agneau de devenir un mouton. Les natures spécifiques définissent les dramatis personae et les intrigues de l'univers. Voilà pour cet extrait de votre essai « Contre nature ». Petit aparté, vous avez publié de nombreux ouvrages, traduits dans de nombreuses langues. Seulement deux de vos essais sont traduits en français, donc avec les camarades de l'équipe. On est assez surpris par ce constat, pour ne pas dire consterné. Comment ça s'explique, ça ?
Je n'ai pas la moindre idée.
J'ai toujours eu l'impression que le monde intellectuel français était extrêmement riche. On en a profité dans de nombreuses cultures, on est nombreux d'en avoir profité, mais il semble hermétiquement fermé. Et c'est peut-être d'ailleurs la condition de sa créativité. Je spécule là-dessus, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, c'est un fait, et je crois qu'il n'y a pas que mon travail, c'est aussi le travail de mes collègues, qui est relativement peu traduit en français. Bien sûr, c'est un grand compliment quand finalement un livre est traduit en français, et on apprécie beaucoup.
Voilà, parenthèse close et message passé. Pour revenir sur vos travaux, Lauren Daston, on vient de parler donc des trois significations très anciennes de ces trois façons de penser la nature. Au fil des siècles, ces ordres naturels ont été utilisés pour imaginer et justifier divers ordres moraux. C'est aussi quelque chose que vous interrogez dans votre essai.
Oui, la question c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que nous, les humains, qui sommes si créatifs, pour créer justement toutes sortes d'ordres politiques, moraux et sociaux, pourquoi on a besoin de reproduire en miroir ces ordres sur la nature ? Pourquoi nous faut-il des analogies et des modèles, des justifications que nous inventons et que nous projetons sur la nature ? Pourquoi nous les tirons de la nature ? C'est vraiment une énigme parce qu'il est possible de trouver un modèle, une analogie, une justification dans la nature à absolument n'importe quelle opinion ou n'importe quel point de vue, qu'elle soit révolutionnaire ou réactionnaire. La nature a été utilisée pour justifier l'esclavage et pour critiquer l'esclavage. On a utilisé la nature pour justifier la monarchie et pour renverser la monarchie. On l'a utilisé aussi pour justifier la division du travail entre les hommes et les femmes et pour abolir cette division du travail entre les hommes et les femmes. Donc, peu importe l'argument que vous défendez, peu importe l'ordre que vous voulez promouvoir, que vous soyez radical ou conservateur, vous pouvez trouver dans la richesse et toutes les possibilités de la nature une analogie ou un modèle, une justification qui appuiera ce que vous voulez défendre. Une ressource disponible à tous les camps, c'est justement les ressources naturelles. Pourquoi est-ce que la nature aurait-elle une autorité morale ?
Mais c'est ça, puisque depuis l'Antiquité, une action jugée contre nature est condamnée moralement. Vous avez des pistes pour expliquer justement la cause de la moralisation des ordres naturels ?
Commençons par un exemple précis.
Let's take specific nature.
Prenons la nature spécifique. À la fois dans le monde grec ancien et dans le monde latin, chez les Romains, on utilisait cette approche pour parler de sexualité. La reproduction hétérosexuelle, par exemple, les lois naturelles dans le droit romain, par exemple dans les lois de Justinien, les lois naturelles sont les lois qui sont communes entre les humains et les animaux, c'est-à-dire l'accouplement des mâles et des femelles pour se reproduire et le soin apporté à la progéniture. C'est pour ça que les premiers crimes décrits comme antinaturels sont sont des crimes qui ont à voir avec la subversion de ce qui est considéré comme l'ordre naturel du mâle et du femelle, du masculin et du féminin, et de la reproduction. Donc l'homosexualité est étiquetée par les pères fondateurs du christianisme comme étant antinaturelle. Mais une mère qui se montre cruelle avec ses enfants aussi, par exemple Médée. Médée est une mère antinaturelle. Parce que c'est lié à ces caractéristiques qui sont communes aux animaux et aux êtres humains. Donc encore une fois, c'est une approche de la nature spécifique dans un contexte où ce qui est antinaturel est utilisé en particulier pour la question en fait, quand la reproduction se passe mal, c'est-à-dire les naissances monstrueuses. C'est là qu'on adopte cette approche-là. Quand quelque chose de non naturel se passe, quand le cours de la nature dérive.
One gets a very different sense of the unnatural.
On a une approche très très différente de l'antinaturel quand on adopte le point de vue de la nature locale. La question devient celle des équilibres de la nature locale qui peuvent être renversés quand il y a par exemple une catastrophe naturelle. Par exemple, une catastrophe naturelle qui implique une forme de responsabilité humaine. Par exemple, quand il y a une avalanche en Suisse, sur une montagne qui a été décapée, où on a coupé tous les arbres pour, par exemple, ouvrir une nouvelle piste de ski. Les gros titres affirment la revanche de la nature. Quand il y a des incendies incontrôlés en Californie, dans des zones où les promoteurs immobiliers ont là aussi défriché, ont enlevé toutes les plantes et les arbres qui permettaient au sol de tenir pendant les périodes aussi d'inondation, là aussi, on va parler de revanche, de vengeance de la nature. Et bien sûr, aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, quand il y a des dégâts après un ouragan ou après une inondation, une nouvelle fois, on entend parler de cette idée de la vengeance de la nature. Parce que ce qu'on observe, c'est une destruction de l'équilibre fragile de la nature locale.
Against nature in the context of universal laws has two meanings.
Encore une fois, s'opposer à la nature dans le contexte des lois universelles, ça a deux sens. Il y a un sens biblique, c'est cette idée du miracle, la suspension des lois naturelles. Et seule une divinité peut faire ça. Il y a une autre lecture qui est kantienne, c'est celle de la volonté, du libre arbitre, c'est-à-dire le fait que l'humain tourne le dos aux nécessités causales. Ce sont les deux empreintes, les deux façons de briser l'ordre des lois naturelles. Dans les trois cas, que ce soit l'antinaturel monstrueux, catastrophique, ou le libre arbitre avec comme corollaire le miracle, ce sont des visions qui sont moralisées. À chaque fois, on enfreint l'ordre naturel et ça soulève des questions et des émotions particulières. Les monstres suscitent l'horreur, le désastre, la catastrophe naturelle suscitent la terreur et le libre arbitre ou le miracle, l'émerveillement.
On va passer sur une autre notion qui a été au cœur de vos travaux, une notion sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, l'objectivité. Comment ce concept a-t-il évolué au cours de l'histoire des sciences? Comment s'est-il modifié au fil des siècles? Restez à l'écoute. Set me free, Lorraine.
me again, Lorraine, oh yeah. But there's still the fear. You don't want me near, Lorraine, kiss me again.
The Allisons qui chante Lorraine en direct sur France Culture, car nous avons le grand plaisir de nous entretenir une heure avec Lorraine Daston, historienne des sciences, directrice émérite de l'Institut Max Planck d'Histoire des sciences à Berlin, enseignante à l'Université de Chicago aux États-Unis et lauréate du prix Balzan 2024. On vient d'aborder ensemble quelques concepts transversaux sur lesquels vous travaillez dans vos livres. Parlons à présent de votre essai Objectivity, paru en 2007, traduit en français en 2012 aux éditions Les Presses du Réel et préfacé par Bruno Latour. Vous écrivez: l'objectivité n'était pas seulement un idéal, mais aussi une pratique. Vous avez donc voulu comprendre quelles étaient les différentes pratiques de l'objectivité scientifique. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une objectivité scientifique ?
We should perhaps return to the three tempi of science,
this time the largo tempo. Tempo de la science. Cette fois-ci, on est dans le tempo largo, le plus lent. Ce livre sur l'objectivité que j'ai coécrit avec mon ami Peter Gallison, c'était une tentative de traiter ce qui semblait une vertu perpétuelle de la science, l'objectivité, et de lui accorder une histoire, de lui donner une histoire. Quand on travaille au niveau de l'abstraction, c'est très difficile d'imaginer qu'il a pu exister un temps sans objectivité scientifique. Donc nous avons observé des pratiques que nous estimions caractéristiques non seulement de l'objectivité, mais aussi d'autres vertus épistémologiques, comme la certitude, comme la précision, comme la fidélité à la nature ou le jugement. De la même manière que nous avons des vertus morales, la justice, l'honnêteté, la bienveillance, il y a aussi des vertus épistémologiques. Nous avons pensé que la meilleure manière de donner une histoire propre à l'objectivité, une histoire qui soit différente de celle de la certitude et de la précision, c'était d'observer les pratiques. Et nous avons choisi la pratique qui consiste à produire des images. Depuis le XVIe siècle, la science déborde d'images. On ne peut pas prendre un article scientifique ou un traité scientifique du XVIe siècle, du XVIIIe, du XIXe ou du XXIe siècle sans voir toute une richesse visuelle d'images. Donc, on s'est concentré sur l'idée de savoir comment on produit une image qui incarne la fidélité à la nature. Quand on veut essayer de montrer une vérité cachée sur la nature, et qu'est-ce que c'est par rapport à une image objective ? Je vais vous donner encore une fois un exemple concret. Au XVIIIe, une image produite par des scientifiques comme un botaniste, comme Linné par exemple, l'image qu'il cherchait à produire, c'était l'image du type de plante. Il ne voulait pas représenter telle ou telle plante du jardin avec ses feuilles qui ont été mangées par les insectes ou avec ses fleurs flétries. Il ne voulait pas non plus montrer la fleur qui va peut-être fleurir à un moment et puis flétrir à un autre. Il voulait montrer le type qui la rendrait reconnaissable quelle que soit la saison, quelle que soit la variété, qu'il s'agisse d'un plant mâle ou femelle, qu'il soit en floraison ou au contraire en train de flétrir. La même image qui aurait été produite par quelqu'un qui cherchait l'objectivité aurait été une photo de la même plante. Sauf que cette plante-là, celle qui vient de votre jardin, elle a effectivement les feuilles abîmées, elle a les pétales qu'elle a perdus, les petits trous faits par les insectes. Et peut-être qu'il y a d'autres plantes autour d'elle qui n'ont rien à voir. L'avantage de la photo, c'est qu'elle contient beaucoup moins d'interventions de la part du scientifique scientifique ou de l'artiste. Le désavantage, en revanche, c'est que ça inclut une prolifération de détails qui ne sont pas du tout pertinents par rapport à l'objectif qui est donc d'identifier cette plante.
Oui, quand vous évoquez le botaniste Linné, à l'époque, art et science convergent dans les jugements où la vérité et la beauté sont étroitement liées. Et puis vous montrez en effet que dans cette histoire-là, il y a ce basculement. Et avec cette question finale, l'objectivité existe-t-elle vraiment ?
Yes, it does. It really exists.
Oui, elle existe, mais ce n'est pas la seule vertu épistémique de la science. Et ça peut être aussi un frein au savoir, en même temps que ça peut aider parfois le savoir. Quand on parle de ces vertus épistémiques, on parle de certaines pratiques, de certaines attitudes qui peuvent être intériorisées. Ça fait vraiment partie de l'éthos du scientifique, du chercheur, des attitudes dont on estime qu'elles permettent d'arriver à une connaissance fiable. Ces vertus épistémiques ne fonctionnent pas forcément en harmonie les unes avec les autres. Je vais vous donner un exemple réel. Des astronomes du début du 19e siècle observaient le passage d'une comète. Nous savons, d'après les travaux de Newton, que le passage d'une comète va suivre un certain nombre de courbes. Il y a la parabole, l'ellipse, le cercle, il y a différentes formes de trajectoires. Les observateurs, les astronomes, voient un moment, un point qui sort complètement de la courbe qu'ils avaient prévue. Donc un point qui ne correspond pas. Que faire de cette donnée ? L'astronome, ami de la célèbre mathématicienne Gauss, lui écrit pour lui demander une formule pour essayer de savoir s'il faut ou pas intégrer cette donnée, ce point qui sort complètement de toutes les trajectoires plausibles. Gauss répond : il faut faire appel à ton jugement. Là, la vérité de la nature entre en collision avec l'objectivité. Un astronome objectif aurait utilisé toutes les données. Pour savoir quelle trajectoire est plausible, en réalité, il faut faire un jugement subjectif. Gauss, manifestement, était davantage convaincu par la vérité de la nature, la fidélité à la nature, que par l'objectivité.
Puis votre enquête s'achève sur les nanotechnologies. Hein, vous montrez comment elles ont instauré une nouvelle relation entre la science et l'image. Lorraine Daston, vous avez aussi montré dans vos travaux qu'après le Moyen-Âge, beaucoup d'activités se sont standardisées à travers la création de manuels, de règles et de lois algorithmiques. Elles ont permis l'essor des machines qui mécanisent le calcul. Et c'est justement le sujet du reportage de cette émission. Et on en parle avec vous, Alexandre Morales. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Pour le reportage du jour, vous vous êtes rendu au Musée des Arts et Métiers à Paris.
Oui, avec le perfectionnement des sciences, les calculs se sont complexifiés, les nombres devenant de plus en plus grands, mais les méthodes de calcul restant les mêmes. Des instruments existaient déjà depuis plusieurs siècles, comme le boulier ou simplement le comptage sur les doigts, par exemple. Mais au XVIIe siècle, plusieurs inventions vont transformer en profondeur la façon dont s'effectuent les calculs, qu'il s'agisse de concepts arithmétiques ou d'outils techniques. Et je me suis rendu donc à la galerie des instruments scientifiques du Musée des Arts et Métiers avec le médiateur Laurent Vavasseur pour découvrir quelques-unes de ces innovations scientifiques.
Au niveau du calcul, en fait, pendant très longtemps, la difficulté majeure, surtout en astronomie en particulier, c'est qu'il fallait faire des très très grandes multiplications, donc ça durait des mois en fait pour faire des calculs assez complexes. Et finalement, en 1614 et 1617, Néper, ce qu'on appelle comme ça en français, qui est donc un Écossais, en fait, va découvrir les logarithmes, ce qui permet en fait de passer de l'addition, enfin de faire des additions pour faire des multiplications. Parce que petit rappel, log de A plus log de B, c'est égal à log de AB. Donc en graduant en fait une règle ou en faisant des tables, en fait, on ne fait que des additions pour faire des très grandes multiplications. Donc ça, c'était une invention majeure en fait, les logarithmes. Et donc il y a une application importante, c'est la fameuse règle à calcul qui permet de faire plein de calculs en trigonométrie, multiplication, division. On peut pas faire d'addition, soustraction d'ailleurs, mais et après on peut faire des extractions de racines cubiques, ainsi de suite.
On peut passer à la pascaline. Là, vous avez 4 pascalines, c'est des espèces de boîtes en métal, pas si gros, hein. C'est plus petit qu'une boîte à chaussures. Ouais, ouais. C'est une brique de lait. Et la Pascaline, c'est une des premières machines à calculer.
C'est même la première machine à calculer, en tout cas, existante aujourd'hui. Et donc c'est en gros 1650. Alors Blaise Pascal, en fait, fait ces machines-là pour soulager le travail de son père, parce qu'il était en receveur des impôts à Rouen. Donc à l'époque, on calculait essentiellement à la main, donc soit avec des abacs, c'est un peu comme des bouliers, soit la plume, donc on dirait au crayon maintenant. Donc pour le soulager, il a eu l'idée de mécaniser le calcul. Donc c'est vraiment la première machine à calculer dans le sens où en fait la retenue est intégrée dedans. C'est-à-dire que là, avec cette machine-là, on fait 9 plus 3, ça va faire automatiquement 12. On est déchargé du passage de retenue. Et c'est pour ça que c'est une machine à calculer.
Et comment elle fonctionne? Il y a des rouages?
Oui, évidemment, à l'époque, ça n'est que de la mécanique. Mais on retrouve, ça c'est rigolo, les trois composantes de la calculette actuelle. Vous avez devant des inscripteurs, qui ressemblent un peu aux anciens cadrans téléphoniques. Ouais. C'est un peu la même idée. Vous avez à l'intérieur la mécanique qui permet de faire le passage de retenue. Et en haut, ce qu'on appelle un afficheur, c'est là où on lit le résultat. Donc aujourd'hui, ce sont des touches électroniques et un écran. Mais on a les trois composantes de la calculette. Donc en fait, chaque inscripteur correspond à une puissance de 10, hein, donc unité, dizaine, centaine. Donc c'est assez facile à utiliser. Si je veux faire 9, je mets un petit crayon, un petit stylet dans le 9 et je pousse ma rouge jusqu'en butée. Mmh. Ça va afficher 9 dans la case des résultats. Après, si je veux ajouter 3, je mets mon petit crayon dans le 3 et je pousse jusqu'en butée. Et automatiquement, il gérera la retenue. Alors la difficulté, c'est le passage de retenue. Hein. Alors il a beaucoup réfléchi, il dit lui-même qu'il a fait 50 machines avant d'arriver à celle qu'il estime aboutie. En fait, l'idée, c'est que il y a ce qu'on appelle un sautoir à contrepoids. C'est-à-dire quand on fait un tour complet avec une roue, il y a un contrepoids qui bascule et qui pousse d'un cran la roue d'à côté.
Là, on en a plusieurs, d'ailleurs.
On en a quatre, ici.
Quatre, et j'imagine qu'elles correspondent à des évolutions, des aboutissements différents de la machine.
Elles sont plus ou moins perfectionnées, mais le fonctionnement reste le même. On en a deux sortes ici, en fait. Vous avez pour faire des comptes d'argent, parce qu'à l'époque du Pascal, la monnaie n'est pas comme on le connaît maintenant. Il y a les deniers, les sous, les livres. Donc, c'est des bases un peu différentes, bases 12, 10 et 20. Et après, vous en avez pour faire des comptes de matin classiques. Il y en a un troisième modèle qu'on n'a pas ici, qui est pour faire des comptes de longueur, parce qu'on est en pied, en pouce à l'époque. Hein. Donc, en fait, c'est ça surtout qui diffère. En fait, c'est les bases qu'on utilise.
Et aujourd'hui, elle pourrait marcher encore?
Oui, elle marche, oui. En fait, c'est une machine, honnêtement, qui n'a pas eu un succès grandissime. Déjà, on ne sait pas exactement combien elle est fabriquée. Entre 15 et 20, sans doute. Donc, il y en a 9 de recensés actuellement dans le monde. C'est un objet, finalement, qui ne fait qu'addition et soustraction, réellement. Après, visiblement, elle coûtait assez cher. Enfin, les modèles un peu aboutis, comme celui qui est là-bas, c'était à peu près 400 livres de l'époque. On gagne une livre par jour, hein, même pas. Et visiblement, bon, elle avait manqué un peu de fiabilité. C'est-à-dire que, voilà, comme c'est des rouages, il y a un peu de jeu qui pouvait se mettre dedans. Donc, elle n'était pas toujours exacte dans les comptes.
Mais ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'elle a été commercialisée.
un essai. Oui, elle a essayé de la commercialiser, mais c'est plus un objet de curiosité, en fait, à l'époque, clairement. On n'a pas besoin, finalement, de ça pour faire des comptes. On s'en sort très bien avec toutes les techniques qu'on a par ailleurs. Et en fait, le calcul mécanique réapparaîtra à la révolution industrielle. Là, on a besoin d'une puissance de calcul dont on n'avait pas besoin à l'époque de Pascal, en fait.
Oui. Bah justement, on peut peut-être passer à des machines un peu plus complexes. Et là, maintenant, on passe à l'arithmomètre
de Thomas de Colmar. Donc, le premier dépôt de brevet, c'est 1820. Alors, c'est la première machine industrielle, en fait, hein, qui a une production. Bon, les chiffres varient un peu, mais c'est sans doute quelques milliers d'exemplaires, peut-être jusqu'à 5000. L'essentiel était d'ailleurs destiné à l'exportation. Plus de 60% étaient exportés. Pascal était le premier à faire une machine à calculer. À la fin de ce même siècle, Leibniz fait une machine qui multiplie directement, qui marchait pas très bien non plus, mais ça, c'est repris, en fait, dans cette machine-là. C'est très facile à utiliser. Vous avez devant une petite platine avec des curseurs. Donc là, on peut faire des multiplications ou des additions, soustractions, divisions, pareil, à 8 chiffres. Hein. Donc en fait, on choisit ce qu'on veut faire comme multiplication.
Ouais, on place le curseur sur le chiffre.
Voilà,
qui nous
là, je ne sais pas combien, 65 480 par exemple. Ouais. Après, vous avez une petite manivelle sur le côté, donc ça, c'est ça qu'on va tourner en fait.
D'accord.
En haut, on a l'afficheur, c'est là où on lit le résultat, et un compteur, c'est les petits chiffres ici. Mm-hmm. Donc si je veux faire le chiffre que je viens d'inscrire par 499,
d'accord,
je vais faire 9 tours de manivelle. Pour faire les unités. Après, je vais décaler, en fait, le cadre des résultats d'un cran sur la droite.
Okay.
Et en gros, par puissance de 10, je fais autant de tours de manivelle que nécessaire. À l'époque de Pascal, il fallait soi-même répéter l'addition. Alors que là, il suffit de tourner. Et visiblement, un manipulateur assez doué pouvait faire des multiplications de 8 chiffres par 8 chiffres en 15 secondes. Ça allait très, très vite, en fait. C'est une machine comptable, hein. Donc beaucoup utilisée dans l'assurance, à l'SNCF, ils utilisaient aussi. Voilà. Mais ça a eu un succès énorme. C'était pas mal copié. C'est un objet qui était assez important à l'époque, hein, qui coûtait un peu cher, mais qui était assez important.
C'est un bel objet. C'est une espèce de coffret en bois avec, ce que vous disiez, une platine.
Mm.
Et peut-être, pour faire un petit peu de prospective et dépasser un petit peu les objets qu'on vient de voir, quelles sont les étapes suivantes? Est-ce qu'on passe directement à la calculette ensuite?
La règle à calcul et la règle à mètre ont cohabité, en fait, pendant très très longtemps. Parce qu'en fait, la règle à calcul est plus universelle, finalement, parce qu'elle permet de faire beaucoup de calculs trigonométriques en particulier.
Pour peu cher, en plus de ça.
Pour peu cher, carrément peu cher. Alors que là, la règle à mètre, c'est vraiment une machine comptable. En fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu apparaître les touches, des choses comme ça, mais en fait, ça va tomber en désuétude à partir du moment où on a inventé les calculettes électroniques, quoi. Ouais. 1972, je crois, la première qui a été produite. Et les règles à calcul, en 5 ans, disparaissent complètement. Alors que c'était des millions qui ont été fabriqués, en 5 ans, c'est fini. Plus aucune fabrication de règles à calcul. Donc, les années 75, voilà, vous avez les calculettes comme on les connaît maintenant, en fait. Hein. Mais Apollo 11, ils ont été sur la Lune en emmenant deux règles à calcul, quoi. Voilà, de secours, en fait.
Okay.
Voilà. C'est l'objet emblématique des ingénieurs. La règle des calculs. Après, voilà, tous ces calculs anciens, en fait, ont disparu. Sur le calcul mécanique, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a électrisés, en fait. C'est fini, en fait. La mécanique disparaît complètement au profit de l'électronique.
Merci Alexandre Morales pour ce reportage. Les étapes suivantes, Lorraine Daston, pour prolonger ce qu'on vient d'écouter, au cours des siècles, l'empire des algorithmes s'est beaucoup étendu. Aujourd'hui, on vit dans un monde algorithmique au sens très large.
Il faut se souvenir que les algorithmes, c'est seulement un des sens parmi les nombreux sens des règles. À la base, les algorithmes, l'algorithme, c'était seulement, ça désignait en fait les quatre opérations de base de l'arithmétique : l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. C'est seulement au 19e et au début du 20e siècle que l'algorithme est devenu important dans le domaine de la logique aussi et dans les mathématiques au sens large. Si vous regardez la principale encyclopédie des mathématiques au milieu du 19e siècle, par exemple, vous ne trouverez même pas d'article pour définir le mot algorithme. C'est vraiment nouveau, cette place centrale occupée par ce concept dans notre imaginaire, mais aussi dans nos pratiques. Au départ, l'algorithme, c'était une façon possible de définir les fondements mathématiques. Les algorithmes, ce sont les prototypes d'un type de règle qui est une règle assez mince. Ce sont des règles qui ne tiennent pas compte du contexte. Ce sont des règles qui sont formulées avec aussi peu de détails que possible. Ce sont aussi des règles qui dépendent de données qui les alimentent de façon fixe et qui donnent un résultat aussi fixe. C'est un petit peu comme une recette de cuisine. Si vous faites X, vous obtiendrez Y. Ou comme, par exemple, les instructions pour assembler votre bibliothèque IKEA. Le mode d'emploi est là aussi censé être aussi rigide, constant que possible pour obtenir un résultat précis. Dans ce type de processus où le contexte n'a pas d'importance, dans un monde stable, prévisible et homogène, où on peut compter sur la standardisation, par exemple les poids et les mesures, ou là encore la standardisation des procédures pour produire des avions ou pour gérer le trafic. Alors là, les algorithmes fonctionnent parfaitement bien dans ce type de contexte. Ils sont très efficaces. Mais dans une situation qui est variable, instable, hétérogène, où il peut y avoir des surprises, par exemple, dans un contexte de pandémie ou de révolution, les algorithmes s'effondrent.
D'ailleurs, c'est dans votre ouvrage Rules, paru en 2022, qui n'est pas traduit en français, où vous revenez justement sur l'origine du mot algorithme et on apprend que ça vient du nom d'un mathématicien persan, Al-Khwarizmi, né à la fin du XVIIIe siècle. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de cette discussion. Merci Marguerite Capel pour la traduction. Merci beaucoup Lorraine Daston. Je rappelle que demain, vous serez reçu pour la 43e conférence Marc Bloch de 18h30 à 19h30 à la Cité des Sciences. Merci à vous deux. Tout de suite, un tout autre sujet, c'est la chronique Avec Science d'Alexandra Delbo.
Quoi ? Comment les micro-algues dépolluent des métaux lourds? Les métaux lourds existent sur Terre de façon naturelle, comme tout élément chimique du tableau périodique. Mais quand on parle de pollution, on fait référence au rejet massif des industries chimiques dans les cours d'eau. Chaque domaine génère des polluants différents. C'est ce qui peut faire varier la composition en métaux lourds dans les milieux aquatiques. Pour les activités agricoles, c'est le cuivre. Pour les industries, c'est le mercure, zinc, sélénium ou encore cadmium. Et proche des villes, on peut trouver plutôt du plomb. Ces métaux lourds ne se dégradent pas et contaminent l'ensemble de la chaîne alimentaire, mais certains organismes comme les micro-algues semblent s'être accommodés à leur présence. Cécile Formosa Dag est chargée de recherche CNRS au Toulouse Biotechnology Institute, qui dépend de l'Université de Toulouse. Elle est la dernière autrice de cette étude parue dans Environmental Pollution.
Depuis toujours, on voit bien que dans les rivières, dans les milieux aquatiques qui sont contaminés, il y a des micro-algues qui poussent. Et donc, si elles sont capables de pousser dans ces environnements qui sont extrêmement pollués, c'est qu'a priori, elles savent gérer le polluant et donc, potentiellement, elles peuvent nous aider à décontaminer. C'est plutôt ça l'observation. Ça a été juste de dire, ok, cette rivière, elle est extrêmement polluée et pourtant, j'ai des micro-algues dedans qui poussent. Soit la micro-algue peut seulement vivre avec le polluant sans qu'il la gêne, mais potentiellement, elle peut aussi l'absorber. Et du coup, il sera plus présent dans le milieu aquatique. Et donc, s'il est plus présent, si l'algue l'a absorbé, alors on le contamine.
Plusieurs espèces de micro-algues vertes d'eau douce semblent avoir la même capacité. La question, c'est comment font-elles? Par quel mécanisme biologique parviennent-elles à lier ces métaux lourds? Pour répondre à ces questions, cette nouvelle étude s'est penchée sur Parachlorella kessleri, qui pousse dans la rivière Reconquista à Buenos Aires, un cours d'eau très pollué au zinc. Pour découvrir le secret de cette algue, il a fallu employer un microscope particulier. Parce que, contrairement au microscope classique qui fonctionne avec des photons ou des électrons pour le microscope électronique, le microscope à force atomique utilisé ici se sert d'un contact physique avec l'échantillon. C'est un petit peu comme lire du braille, mais à l'échelle nanométrique, le microscope va scanner la surface de l'algue avec une pointe très fine pour voir ce qui change à sa surface en fonction de la présence de différents composés. Du zinc, bien sûr, ainsi que différentes sources d'azote. Résultat, Parachlorella kessleri fabrique un gel de sucre pour éliminer le métal lourd.
En fonction de la source d'azote, les cellules étaient capables de produire en fait ce qu'on appelle des polysaccharides extracellulaires, c'est-à-dire en fait de rejeter autour d'elles une couche épaisse de polysaccharides, donc qui sont des sucres. En fait, cette couche de gel de sucre autour des cellules, elle était très importante quand les cellules étaient en présence de nitrate, et ce n'était pas le cas quand elles étaient en présence d'ammonium. Et donc, on s'est dit, ce gel autour des cellules doit avoir un rôle dans l'absorption du zinc depuis le milieu de culture. Et donc là aussi, on a utilisé la microscopie à force atomique qui permet de faire des images, mais pas seulement. En fait, cette pointe, on peut très bien mettre dessus des particules de zinc. Et en fait, on va venir toucher la surface de la cellule avec cette particule de zinc. Et en tirant en fait, la pointe avec la particule de zinc, on va être capable de voir si la particule de zinc a interagi avec la surface. Donc on a réalisé ces expériences-là et on s'est rendu compte que les particules de zinc, elles interagissaient avec justement cette couche de gel de sucre qui se trouve à la surface des cellules quand elles poussent en présence de nitrate. Quand elles poussent en présence d'ammonium, elles n'ont pas ces sucres autour d'elles et là, on n'a pas d'interaction entre les particules de zinc et les cellules.
Et donc, c'est une preuve directe, et la première, de l'interaction entre ce gel de sucre sécrété en présence de nitrate, qui est à la fois un polluant mais aussi une source d'azote, et le zinc. Second résultat de l'étude, le métabolisme de l'algue change avec l'absorption du zinc, et c'est une nouvelle confirmation du mécanisme de dépollution. La suite, ce sera d'imaginer des systèmes entiers, de cultiver dans des bonnes conditions ces micro-algues pour faire de la bioremédiation, c'est le terme technique de décontamination des milieux pollués par un organisme vivant, ce qui pourrait être appliqué au zinc, bien sûr, mais théoriquement aussi aux métaux lourds et même à d'autres polluants émergents, comme les antibiotiques ou encore des microplastiques, sous réserve que certaines algues se lient naturellement à ces composants.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Alexandre Morales, Ali Ruyer-Thompson, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.
France Culture.
Vendredi à 6h30, les micros s'ouvriront dans le studio des matins. On espère que vous, vous aurez déjà ouvert votre poste.
Guillaume Erner.
Qu'est-ce que le procès de Mazan va changer? Y aura-t-il un avant et un après procès de Mazan? On en parle ce vendredi dans les matins.
Les matins de France Culture, aujourd'hui à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Presque 3 ans après le début du procès dit des viols de Mazan, et alors que les plaidoiries ont débuté, France Culture vous propose toute une série d'émissions et de réflexions sur cette affaire totalement inédite. Que nous dit la diversité sociale des hommes impliqués dans ces agressions? En quoi cela doit-il nous interroger sur une culture du viol et les imaginaires qui la produisent? Peut-on espérer la briser et faire émerger une culture du consentement? Mazan, le procès du viol, ce vendredi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Le 8 novembre 1972 s'ouvre le procès de Bobigny, devenu historique grâce à l'avocate Gisèle Halimi, dont la stratégie est de mettre en accusation la loi.
Quelle question voulez-vous que je lui pose ?
Marie-Claire, je souhaiterais que tu racontes toute ton histoire.
La reconstitution exceptionnelle du procès historique qui contribua à la